My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Salut à tous, bienvenue dans Les Enfants du Nouveau Monde. Nous sommes au mois d'avril et ce mois-ci, je suis ravie d'accueillir Laurence Nug avec moi dans le studio de Radio 16. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Donc en ce mois d'avril, j'avais envie de parler d'éducation. L'éducation, c'est un domaine qui évolue beaucoup, hein,
en ce moment.
Oui. Mm-hmm. Tous les parents se questionnent. Bon, je crois que ça fait déjà un bon moment, mais on va dire que les réponses qui sont apportées ont vraiment changé depuis la première approche
ça a
psychologique.
Énormément changé.
Alors, toi, Laurence, tu es coach parental, justement, pour parler de ce sujet, et tu es formatrice en approche empathique de l'enfant, et c'est bien là toute la nouveauté.
C'est tout à fait ça. Mm-hmm. Ça englobe aussi les neurosciences, ça englobe beaucoup de domaines très nouveaux.
Mm-hmm. Alors toi, tu formes des professionnels, des enseignants, des personnes qui travaillent dans des milieux scolaires, des crèches, des cantines, des centres sociaux, tous les milieux qui travaillent avec les enfants et les adolescents. L'idée, c'est d'améliorer les relations entre les adultes et les enfants.
C'est tout à fait ça. Je pars toujours d'une petite phrase que j'ai entendue il y a très longtemps, qui est « un enfant qui se sent bien agit bien ». Et du coup, c'est vraiment complètement différent. Dès qu'on va aller dans le sens de comprendre le comportement de l'enfant, on va pouvoir répondre à son réel besoin et pas au leur. Mais ça, on aura le temps d'en reparler plusieurs fois.
C'est vraiment des approches qui sont très à l'écoute de l'enfant, de ses besoins, de ses émotions. Toi, tu formes des adultes donc pour apprendre à se mettre comme ça à l'écoute des enfants. Et tu formes aussi des enfants pour qu'ils sachent se mettre à l'écoute entre eux aussi.
C'est nouveau, nouveau. J'ai commencé à travailler avec des adolescents dans un collège et puis aussi avec des groupes de parents et d'adolescents. Et c'est vraiment chouette de voir comment eux aussi s'approprient les outils pour le vivre ensemble. Et donc, il y a d'autres projets qui se mettent en place avec d'autres collèges et je suis vraiment ravie de voir ça parce qu'ils sont merveilleux quoi, ces enfants. Dès qu'on leur donne des outils, ils n'ont qu'une envie, c'est
les mettre en pratique.
Ouais, ils sont extraordinaires.
Waouh. Il faut en prendre de la graine, hein, nous.
Oui.
Les grands. Alors donc, toi tu les formes justement à la médiation, à la résolution de conflits, tu as fait ça dans des collèges.
Voilà.
Ça augure vraiment un nouveau monde. Les enfants du Nouveau Monde vont vraiment nous transformer le monde.
J'espère. C'est l'idée.
J'espère aussi.
Et quand même aussi, beaucoup, je travaille en particulier le plus avec les parents, en groupe de parents, dans plein d'endroits différents. Et ça, c'est vraiment une partie de mon travail que j'aime énormément.
Alors, justement, les parents, hein, aujourd'hui, il y a un panel de livres et d'informations sur Internet sur la parentalité positive, sur l'éducation bienveillante, sur la bienveillance éducative. Tout ça, il y a plein de termes qui parlent finalement de la même chose. C'est comment déjouer cette violence ordinaire qu'on trouve dans l'éducation.
Oui. Il y en a partout, ça va des mots, toutes ces petits mots, oh, mais c'est pas possible, t'as encore fait ça, mais t'es bête, mais toutes ces petites choses blessantes qui abîment la relation, qui fragilisent l'enfant lui-même. Et puis, bien sûr, ça va jusqu'aux fessées, aux punitions qui servent à rien, qui ne font que mettre qu'éloigner les gens au lieu de créer de l'intimité. Et c'est dans l'intimité qu'il va pouvoir naître une belle relation entre le parent et son enfant.
Et alors, apprendre à créer cette intimité aussi dans les aléas de la vie, de nos émotions, du stress, du quotidien, etc. C'est là que ça s'apprend.
C'est ça qui est difficile. C'est que quand on est en stress, quand on ne se sent pas bien, quand on est pris par nos problèmes, soit intérieurs, soit nos problèmes de vie courante, ben notre cerveau se disjoncte et on se met à être en stress et à attaquer l'autre. Mmh. Et c'est plus simple d'attaquer son enfant que d'attaquer son conjoint ou son patron parce qu'il y a moins de risques. Donc voilà, les enfants sont en général les premiers qui prennent. Et c'est vraiment tout un travail sur soi d'arriver à se recentrer, à être présent à soi-même pour pas attaquer, mordre l'enfant plutôt que de prendre son calme et prendre la petite distance qui permet d'avoir les mots bienveillants.
Mmh. Cette violence éducative ordinaire, comme on l'entend, elle a plusieurs échelles. Ça peut aller donc de la violence physique, comme de mettre une fessée, etc. On entend beaucoup de gens qui disent « Ah ben moi, j'en ai reçu des fessées, des claques, et ça m'a pas fait de mal. Regardez, ça m'a voilà, ça m'a aussi appris la vie, etc. » D'une part, il y a ce déni d'une certaine violence, puisqu'évidemment, on aime nos parents, on leur a pardonné, on sait qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, et on n'a pas envie forcément de les accuser pour ce qu'on a reçu. Pourtant, aujourd'hui, dans les rayons développement personnel, psychologie, etc., des librairies, on a énormément d'ouvrages sur la question de l'enfant intérieur, de guérir nos blessures d'enfant. On ne remet plus en cause aujourd'hui le fait que ce sont les premières blessures qu'on a rencontré dans la vie, nos premières blessures émotionnelles qui créent ensuite des schémas de comportement qui vont se prolonger tout au long de la vie, un schéma d'une personne qui aurait été blessée, qui aurait ressenti de la trahison ou de l'injustice ou un sentiment de dépendance ou de rejet vis-à-vis de la relation avec ses parents. Donc alors après, pour se guérir de tout cela, maintes thérapies de toutes sortes, émotionnelles, psychologiques, pour retrouver l'estime de soi, la confiance en soi et un rapport apaisé à l'autre, puisque quand on a eu des blessures dans nos premières relations avec les êtres qu'on aimait le plus au monde, difficile ensuite d'avoir des relations apaisées dans le couple.
C'est tout à fait ça. Et puis aussi, moi je le remarque, hein, les parents me le disent, que ce soit en cabinet ou en groupe, quand ils sont en colère, que leurs enfants font une bêtise, la première chose qui leur vient, c'est en général de faire ce qu'ils ont reçu. Donc s'ils ont reçu de la bienveillance, ben, ça va, c'est pas un souci, mais quand ils ont reçu une fessée parce qu'ils voulaient pas finir leur assiette d'haricots verts, eh ben, le premier truc qui leur vient quand leur enfant veut pas manger, c'est de donner une fessée ou alors de punir ou de faire des choses. Et c'est vraiment, enfin moi je l'ai ressenti moi aussi, c'est vraiment un moment où on a l'impression qu'on ne peut rien faire d'autre, il n'y a que ça qui vient.
C'est physique, hein.
C'est physique,
c'est viscéral. C'est
complètement.
Ça s'est tellement engrammé dans nos cellules que du coup c'est effectivement la seule réponse qui nous vient à ce moment-là face à notre enfant, alors que c'est exactement ce qu'on ne voulait pas faire.
C'est exactement ça. Et donc du coup on a souvent envie de se mettre à l'opposé, alors que l'opposé ce n'est pas forcément bien. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir répondre à ce dont l'enfant a besoin. Donc c'est d'être là avec lui, de pouvoir l'accompagner en fonction de ce qui se passe.
Donc qu'on soit bien clair, c'est pas un débat entre laxisme ou autoritarisme.
Tout à fait.
C'est ni d'ailleurs la voie de l'équilibre entre les deux, c'est une autre voie.
Voilà.
C'est une autre voie.
Le laxisme, c'est aussi très compliqué pour les enfants et ça sert à rien du tout. Hein. On peut raconter une petite histoire que j'aime bien. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle M. Guinotte, qui est un des auteurs qui est vraiment à la base de tous ces ateliers. Et il racontait l'histoire d'un petit enfant qui voulait manger plein de boules de glace. Il voulait manger 8 boules de glace. Son papa, très autoritariste, on pourrait dire, lui dit 8 boules de glace, mais tu n'es pas raisonnable, voyons, il est hors de question que tu manges 8 boules de glace. Pour l'appel, tu n'en auras aucune. Le papa laxiste va lui dire, oh mon chéri, ben oui, 8 boules de glace, vas-y, mange 8 boules de glace, fais ton expérience de manger 8 boules de glace.
Tu auras mal au ventre et tu comprendras par toi-même.
Voilà. Et puis l'autre papa va lui dire, qui n'est pas laxiste, va pouvoir lui dire, ni autoritariste, eh bien dis donc, 8 boules de glace, qu'est-ce que tu aimes ça la glace? Tu sais quoi? T'as de la chance. Aujourd'hui, tu peux choisir 2 parfums, lesquels tu veux. Et c'est ça, cette autre voix. C'est entendre derrière l'envie de 8 boules de glace, qu'on a envie, qu'on aime ça très très fort.
Et savoir le remarquer, le reformuler, l'exprimer à l'enfant pour qu'il se sente entendu. Ouais. C'est-à-dire cette première petite phrase qui dit « Waouh, t'as envie de manger 8 boules de glace !» Et bien là, on est avec. Alors que si on lui dit « Comment ça, 8 boules de glace ? Mais ça va pas, non ?» Et bien là, on n'est plus avec.
Voilà.
Et crée de la rupture.
C'est l'empathie. Et puis après, si on décortique la suite de l'histoire, donc on commence par faire de l'empathie sur ce que vit l'enfant. Et puis après, on lui redonne du pouvoir sur la situation en lui disant « tu peux en choisir deux ». On lui donne un peu de « ouais, j'existe dans la vie et j'ai le droit de faire des choix ». On s'en fiche que celui qui choisisse vanille ou chocolat ou fraise ou citron. Et ça, lui, il peut le prendre et se l'approprier.
Donc là, il y a deux clés dans ce petit exemple. Donc d'une part, repérer l'envie et donner de l'empathie à ce moment-là au sentiment qui est vécu. Là, en l'occurrence, c'était un sentiment de gourmandise, d'enthousiasme, etc. Donc on lui fait bien sentir à l'enfant qu'on l'a entendu.
Voilà.
Et d'autre part, lui donner ce pouvoir personnel en lui proposant un choix.
Tout à fait. L'empathie, là, va donner l'attachement dont l'enfant a besoin. L'enfant, pour se sentir bien, il a besoin d'avoir deux carburants, toujours à flot dans son corps, qui est l'attachement et le pouvoir personnel. Et dans cet exemple que Guinotte nous avait donné il y a très très longtemps, c'est vraiment ça que ça démontre. Ça démontre à la fois l'attachement et le pouvoir personnel.
Oui. L'attachement pour se sentir en sécurité et le pouvoir personnel pour pouvoir un jour voler de ses propres ailes.
Oui, se sentir libre. On a tous besoin de ça. Si on n'est pas libre, si on n'a pas cette sensation-là, on
c'est étouffant.
Mais oui.
La vie se meurt. Et oui, effectivement. Laurence, comment en es-tu venue, toi, à t'intéresser à tout ça?
Comment j'en suis venue? J'en suis venue parce que, avant d'être maman, je m'étais dit que jamais je crierais, jamais je donnerais une fessée, jamais je... que je donnerais plein d'amour. Et puis, ça ne s'est pas passé comme ça. Très tôt, quand mon bébé pleurait la nuit, j'ai eu envie de le secouer. J'ai eu des choses à l'intérieur de moi qui étaient complètement à l'opposé de ce que j'avais imaginé. Et je ne comprenais pas pourquoi, quand tout allait bien, je ressentais un amour énorme pour ce petit garçon. Et à d'autres moments, je ne me reconnaissais plus. Et j'ai eu énormément de chance, c'est que je sois contactée par une infirmière PMI pour voir si tout allait bien. Et qui m'a proposé de les rejoindre dans une association, Auvence d'ailleurs, à l'époque. Et ça a été une très très belle expérience. Et là, j'ai entendu cette femme qui parlait aux enfants d'une manière dont je n'avais jamais entendu. Je n'avais jamais entendu quelqu'un parler comme ça à un enfant. Et je me suis dit...
Avec respect.
Avec respect. Je comprenais pas, c'était un peu un truc bizarre. Et puis bon, on a déménagé, on est parti dans le Gard, et un jour elle m'a dit « mais viens à une formation, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». Et là j'ai dit « mais c'est exactement ce que j'ai besoin, j'ai lu les livres, j'ai commencé à essayer de mettre en place ».
Voilà l'intitulé de cet atelier « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent », c'est le titre d'un ouvrage de deux auteurs, Faber et Maslisch, qui est une référence
dans
l'éducation bienveillante.
Tout à l'heure, je citais Guinotte, et Guinotte était le psychologue que suivaient Faber et Maslisch.
D'accord, ok. Alors, tu te retrouves dans cet
Donc,
atelier.
Donc, je me retrouve dans cet atelier, et là, je découvre un autre monde. Je me souviens d'être rentrée à la maison, j'avais 2 heures de route, et je me disais, mais enfin, je vais pouvoir parler avec mes enfants. On va enfin pouvoir se parler. Et ça a été vraiment un grand changement. Alors, ça n'a pas changé le comportement de mes enfants. Mes enfants sont restés des enfants avec un cerveau d'enfant. Ça, je l'ai compris bien plus tard. Mais moi, je pouvais accueillir ce qu'ils vivaient complètement différemment. Et ça a été vraiment un grand, grand changement. Ça n'a pas changé non plus du jour au lendemain le fait que je pouvais me mettre à m'énerver quand un verre de jus était renversé ou quand les jouets traînaient ou quand le soir j'étais fatiguée et qu'il fallait rechanger le pyjama parce qu'il y avait eu je ne sais pas quoi. Enfin, ça n'empêche pas tout ça. Mais en tout cas, j'avais d'autres outils pour entrer en communication avec eux. Donc ça a été une grande joie. Puis après, ben, j'ai eu envie de continuer à plus me former parce que donc très vite, j'ai commencé à animer des groupes. Je faisais déjà de l'accompagnement des mamans avec la PMI où on était un groupe de mamans à faire du soutien entre mères.
D'accord.
Et du coup, j'ai proposé à mes collègues, tenez, est-ce que vous voulez que je vous anime un atelier? Et donc, j'étais ravie. Elles m'ont dit, mais il faut que tu continues, c'est super. Donc, je me suis lancée dedans. Et je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait des parents qui s'appropriaient les outils tout de suite, qui arrivaient à les utiliser.
Oui.
Et pour d'autres parents, c'était plus compliqué. Dont moi, d'ailleurs. Hein, je jette pas la pierre. Je faisais aussi partie des parents pour qui c'était plus compliqué.
Tu veux dire que c'est plus long à intégrer? On le comprend intellectuellement, alors, mais on a du mal à le mettre en pratique.
Et c'est surtout qu'il y a des moments où après, j'ai mieux compris ce système de stress. Quand on rentre en stress, on a trois manières de réagir. Soit on attaque, soit on fuit, soit on se fige. Et moi, je rentrais en stress très facilement. Et donc, très facilement, j'avais envie d'attaquer mes enfants.
Mmh.
Donc, attaquer, ça va être donner une fessée, ça va être crier, ça va être menacer, ça va être toutes ces choses-là.
Ne serait-ce que jeter un regard noir.
Tout à fait.
On est déjà dans quelque chose d'agressif.
Exactement. Et en face, du coup, ça permet pas à l'autre de bien se sentir. Et s'il se sent pas bien, il peut pas bien agir. Et donc, selon l'éducation qu'on a eue, selon notre chemin de vie, on attaque plus ou moins. Et donc, ça m'a pris du temps aussi pour travailler sur moi. Puis, ça m'a donné envie d'aller chercher d'autres outils. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir faire l'école d'Isabelle Filioza, qui a écrit énormément de livres.
Alors, elle aussi est bien évidemment une grande référence sur l'éducation bienveillante et la positive, etc.
D'ailleurs, on m'avait prêté, je ne sais plus quel âge avait mon fils à l'époque, il devait avoir 2 ans, je crois, un livre qui s'appelle « Au cœur des émotions de l'enfant » que j'ai dû lire 4 fois de suite, que je relisais avant chaque vacances, et les moments souvent les plus difficiles pour les mamans, et en me disant « voilà, c'est cette direction-là que je veux prendre avec mes enfants
».
Ça me paraissait vraiment tellement important. Et je n'ai jamais regretté.
Oui, dans son livre, elle parle, Isabelle Filioza, parfois de quelle est notre priorité dans notre rôle éducatif. Il y a des moments où on a envie de dire oui, mais quand même, je lui ai demandé 3 fois, il ne l'a pas toujours pas fait, et on se sent légitime à ce moment-là de crier, de hausser le ton, etc.
Ouais.
Sauf qu'à ce moment-là, on rompt une certaine confiance, une certaine paix dans la relation. Et que peut-être parfois, la priorité, c'est pas ça.
La priorité, c'est pas ça. Et moi, ce que j'expérimente, en tout cas, et ce que les parents que j'accompagne expérimentent, c'est que, oui, des fois, ils vont pas le faire du premier coup. Mais plus on va aller dans une relation avec des cris, des menaces, des punitions, des sanctions, des choses comme ça, plus il va falloir répéter et re-répéter.
Et crier, et hausser le ton. Parce que l'enfant se bouche les oreilles. Au bout d'un moment, c'est comme s'il se mettait des protections
et
il se rentre dans sa bulle pour se protéger de cette ambiance stressante, finalement. Donc,
alors, ça va pas faire qu'on va plus jamais avoir besoin de répéter, d'aller dans une autre
direction.
Mais ça va permettre d'avoir une autre relation avec ses enfants. Et cette relation-là, c'est celle qui me paraît essentielle. Parce que c'est celle-là qui fait qu'à l'adolescence, votre ado va pouvoir venir vous confier ses problèmes, va pouvoir être en lien avec vous. C'est toute une relation qui se crée et c'est tellement important.
C'est une relation d'être à être.
Tout à fait.
S'il n'y a plus de un au-dessus, l'autre en dessous, un qui montre le modèle.
Mais nous, on montre quand même, on reste le modèle de nos enfants. On reste à devoir quand même, c'est nous qui les guidons et les enfants apprennent tout de nous. Donc dans un sens, on reste le modèle. Mais quel modèle on est quand on est au-dessus d'un enfant et qu'on lui hurle dessus « calme-toi »
Mais tu vas arrêter de crier.
Je sais pas
ou alors
faire avec
quand
le micro,
lui mais... met une tape sur la main en lui disant tu ne trappes pas ton frère.
Exactement ça. Donc quel modèle on est quand on fait ça?
C'est sûr qu'on est beaucoup souvent à se regarder et à se dire ok c'est pas très cohérent. Bon mais là j'ai pas d'autre idée là.
Donc c'est hyper important de faire attention à nous ce qu'on fait. Et puis des fois on dit des trucs qu'on n'aurait pas voulu dire et on peut toujours le reprendre avec l'enfant et lui dire bon ce matin je t'ai dit ça. Ça servait pas à grand chose.
Et c'était pas très sympa.
Ouais. On peut toujours
et présenter ses excuses.
Ouais,
quoi.
Bien
ne pas
sûr.
Oublier.
Bien sûr.
Je suis désolée pour la façon dont je t'ai parlé. Je me suis emportée.
Ouais. Et de lui expliquer, moi, dans mon corps, il s'est passé ça. Et du coup, j'ai dit ça. Et ce que j'aurais aimé dire, c'est ça. Ou quand on le prend sur le fait, on peut dire, OK, on efface tout, on recommence, on repart sur une autre piste.
Justement, toi, t'en es là maintenant. Tes enfants sont adolescents,
oui.
voire plus.
Ouais, bah Alexandre, mon aîné, va avoir 18 ans l'année prochaine. Ah ouais, donc ça fait un drôle d'effet. Il n'a que 16, mais de se dire que l'année prochaine, il aura 18, c'est...
Un long chemin parcouru.
Ouais, c'est un long chemin parcouru.
Du coup, bah écoute, avant de découvrir tous les outils que tu transmets aux parents et aux enfants également, je te propose qu'on s'écoute une douce chanson d'Ella Fitzgerald, une berceuse justement pour les enfants, Russian Lullaby. Sur Radio 16, vous écoutez Les Enfants du Nouveau Monde. Les Enfants du Nouveau Monde, c'est justement ce dont il est question, puisqu'on est avec Laurence Nug, qui est coach parental et qui nous donne des clés pour éduquer nos enfants de façon plus bienveillante et positive afin de très certainement créer un monde plus en paix, n'est-ce pas, Laurence, dans les années à venir.
C'est en tout cas ce que j'espère. Je me dis que la paix commence dans nos familles. Déjà, si on arrive dans nos familles à avoir des vies apaisées, ça sera quelque chose d'énorme. Et puis, tous ces outils de communication, ben, on le voit bien, hein, quand on devient parent, si on a reçu de la violence éducative, on a tendance à être à nouveau violent. Et ce que je me dis, c'est que nos enfants, peut-être, amèneront aussi, en dehors de leur famille, ce langage de l'empathie sur leur lieu de travail, ailleurs.
Bien sûr.
Ça pourra sortir.
Je le vois comme un peu couper une chaîne de reproduction infernale, en fait. Inverser un cercle vicieux, là, inverser la tendance. Et...
J'aime à le voir aussi comme ça.
Parce qu'il y a eu tellement cette graine de violence qui a été transmise de génération en génération, que là, on est peut-être justement à l'aube d'un nouveau monde, si on essaye de déjouer cette chose-là. Et c'est vraiment pas facile, parce que ce piège à déjouer, cette manette à inverser, ça se passe en nous, dans nos tripes, dans nos ébullitions émotionnelles, dans nos rages, dans nos colères, dans tout ça, à contenir, à transformer, à canaliser, à alchimiser. Quel travail!
Et puis à oser regarder autrement les choses.
Alors, quels sont les outils que tu transmets justement, toi, Laurence, aux parents pour les aider à faire ce
Alors, le premier qui m'est venu quand on écoutait cette berceuse, c'était justement de prendre du temps ensemble, se faire des câlins, d'avoir de la douceur dans nos relations. C'est vraiment important parce qu'à chaque fois qu'on va pouvoir passer du temps ensemble, se faire un câlin, se faire un massage, être dans le lien, même ne serait-ce qu'avec le regard, parce que les ados, ils vont peut-être moins avoir envie de venir se coller à nous, mais d'être dans ce lien avec l'autre, dans notre cerveau, vient de l'ocytocine. qui est l'antidote du stress. Et donc, c'est vraiment important et ça commence par là. Parce qu'après, il y a plein d'outils de communication, on va en parler. Mais si notre cerveau est déconnecté de notre intelligence, de notre cerveau frontal qui nous permet de réfléchir, de prendre du recul, on ne pourra pas les utiliser, nos outils.
C'est très intéressant ça, parce qu'aujourd'hui, donc, la science nous explique par où passent nos émotions et qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, on a cette chance aujourd'hui de pouvoir comprendre scientifiquement ce qui se passe dans le corps. Et donc,
C'est tout récent, parce que quand j'ai commencé à travailler en 2008 dans ce domaine, on n'en parlait pas encore. Donc, c'est le tout début, là. Donc, on a une chance merveilleuse. Là, aujourd'hui, la science vient nous confirmer tout ce qui était déjà dit dans la théorie de l'attachement, dans toute cette approche. Donc, c'est vraiment merveilleux de pouvoir voir ça.
Alors, pour résumer, en gros, nous avons plusieurs cerveaux qui n'ont pas les mêmes fonctions. Le cerveau le plus archaïque, c'est le cerveau reptilien. Ouais. C'est peut-être celui qui date de l'époque des premières formes de vie, où là, il ne s'agissait que d'attaquer ou de se défendre ou de fuir ou de se reproduire. Mais bref, c'était des choses assez, assez basiques.
C'était des choses basiques qui nous permettait notre survie. C'était vraiment important, parce que c'est important de l'aimer quelque part, parce que c'est aussi grâce à lui qu'on est encore là, et c'est lui aussi qui nous permet, quand notre enfant part sur la route et qu'un camion arrive, d'avoir le réflexe de le rattraper très vite.
Oui, tout à
Donc,
fait.
Donc, il nous sauve encore aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Donc, il a un sens, ce cerveau, il est là. Par contre, où ça ne va pas, c'est quand il se disjoncte, on aime bien prendre cet exemple avec mes collègues. Quand nos enfants, on prend l'exemple du tigre à dents de sabre, là où quand on est dans la savane et qu'on est des hommes préhistoriques, c'est très utile de pouvoir aller l'attaquer. Mais quand on confond...
Enfin, plutôt de l'attaquer, on va dire, plutôt de s'enfuir s'il nous attaque.
Pas forcément, si on était parti à la chasse, on va aller l'attaquer.
Ah bon,
c'est ça aussi qui va nous donner envie d'y aller.
T'es ambitieuse, hein, le tigre à dents de sabre, toi, tu t'es fait.
Ah ben oui. Mais par contre, effectivement, si j'étais pas en position de chasseuse ce jour-là, je prends mes jambes à mon cou et je m'en vais. Et si je ne pouvais ni l'un ni l'autre, je vais me figer. C'est la souris qui est
fait la morte.
Qui fait la morte devant le chat. Et dès que le chat tourne la tête, elle s'en va en courant.
Oui.
Ah, donc c'est vraiment ces trois réactions-là qui sont nécessaires. Le problème, c'est quand on confond nos enfants avec des tigres à dents de sabre. C'est ça qui
et
va
qu'on
pas.
Cherche soit à le chasser ou voilà. Au contraire à se cacher. Oui, et effectivement.
Donc c'est là où ça va pas. Donc ce qui me semble vraiment important, c'est de pouvoir être conscient de ce qui se passe à ce moment-là pour pouvoir se reconnecter à notre cerveau frontal.
Voilà,
qui
alors
est...
ça, c'est le deuxième. Hein, le deuxième cerveau qui arrive un peu après, c'est le néocortex.
Il arrive bien longtemps après.
Bien longtemps après, voilà.
Il arrive à 25 ans.
Oui, alors dans les alors ça c'est fou parce que aussi bien dans l'évolution humaine, on va dire de l'homme, hein, on voit que ça a évolué d'une forme de cerveau reptilien qui prenait un peu le dessus, puis petit à petit il y a eu le néocortex qui est arrivé avec l'Homo sapiens, etc.
Voilà où la
pensée arrive, la complexité de la pensée, etc. Et dans l'évolution de l'enfant, on voit la même chose, c'est-à-dire ça commence avec un cerveau reptilien à la base qui a tout le dessus quasiment, ce qui explique pourquoi les petits enfants sont dans des crises permanentes de rage, de pleurs, etc. C'est très très chaotique.
Voilà. Leur amygdale, ce cerveau primitif, n'est pas connecté avec le cerveau frontal. Le cerveau va se former de l'arrière du crâne jusqu'à l'avant, tout doucement. Et il va y avoir des grandes périodes de réorganisation vers les 2-3 ans et à l'adolescence. Et c'est du coup, on demande à des enfants des choses qu'ils ne peuvent pas faire.
Et oui. Et oui, d'où l'importance d'essayer de voir à travers l'œil de l'autre et se mettre à sa place.
Un petit enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, si on lui dit « va dans ta chambre réfléchir à ce que tu viens de faire », alors qu'il est en pleine tempête de stress émotionnel, il est incapable de réfléchir puisqu'il n'est pas du tout connecté avec son cerveau frontal.
Et oui.
Il n'en a pas les moyens.
En gros, il n'a pas encore la connexion avec le cerveau, donc ça ne sert à rien, il n'y a pas les connectiques.
Voilà, donc il commence à se former. Par contre, il a vraiment besoin de le développer, ce cerveau-là.
Et pour le développer, c'est en l'accompagnant.
Et voilà, ça va être en l'accompagnant.
La douceur.
Dans la douceur, en lui donnant beaucoup d'empathie, et puis en lui montrant comment on fait.
Donc nous-mêmes, il faut que nous soyons connectés à notre néocortex et pas trop à notre cerveau reptilien, qu'on ne joue pas trop les crocodiles avec nos enfants.
Donc c'est intéressant de regarder tout ça. Donc pour moi, dans le premier outil, c'est de prendre soin de soi. en tant qu'adulte pour pouvoir être connecté à notre cerveau frontal et se dire « Ok, mon fils fait une crise parce qu'il veut un bonbon là tout de suite avant le dîner. Si je suis connecté avec mon amygdale, je vais lui hurler dessus. Mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? Tu fais encore un caprice. Tu sais bien qu'on ne mange pas de bonbon. » Et puis, je peux y aller pendant très longtemps. Pour la peine, tu n'en mangeras pas. Alors que si je suis connecté avec mon cerveau d'adulte, je peux lui dire « Waouh, un paquet de bonbons, qu'est-ce que ça fait envie ?» Et oui, c'est sûr que voir ça maintenant que tu as très, très, très faim, c'est un petit peu difficile. Tu sais quoi? Regarde, je les pose là et comme ça, dès qu'on a fini le dîner, on peut en manger. Yes, super. Tu vas choisir quoi? Oh, à la menthe. Eh ben oui, tu comprends, mais je sais bien. Et on peut faire autre chose avec lui.
Et là, on est avec et en même temps, on montre le modèle.
Tout à fait. Et puis, quand un enfant a besoin d'apprendre, et la première chose qu'il a besoin d'apprendre, c'est aussi d'apprendre à se calmer. Mais ce n'est pas parce qu'il va avoir appris une fois qu'il va être capable de le faire à chaque fois. Donc, nous pouvons être des exemples et pouvoir dire « Oh là là, je sens que dans mon corps, je me sens tout stressée, j'ai l'impression que je vais pouvoir taper partout tellement je me sens en colère, je vais vite boire un verre d'eau, je vais vite respirer. » Ouh, je vais prendre un petit peu de temps, je m'assois, je montre à mon enfant comment je me calme pour que lui puisse se dire « Ah, ben tiens, maman fait comme ça.
» Encore c'est ça faut-il savoir le faire et nous-mêmes. Oui,
et on a besoin d'apprendre souvent. En tout cas, moi, j'ai eu besoin et je vois que beaucoup de personnes ont besoin de le faire, d'apprendre. Mais c'est une grande aide.
Tu utilises quoi, toi, pour te calmer?
Moi, ce que j'utilise, un truc qui m'avait beaucoup aidé avec les enfants quand ils étaient petits, j'allais dans la salle de bain et je me lavais, c'est pas très écolo ça, hein, mais bon, je me lavais les mains avec de l'eau tiède. Ça, c'était la chose qui me calmait le plus. Après, cette histoire
de... Longuement, si j'entends bien, puisque tu dis c'est pas très écolo.
Oui, longuement, je vais pas dire que c'était une demi-heure, mais c'est peut-être.
Tu prenais le temps.
Je prenais le temps.
Jusqu'à ce que tu sentes un petit peu les nerfs se calmer.
La respiration m'a beaucoup aidé aussi. Et puis, que j'aime bien, que j'essaye en ce moment, c'est de compter à rebours dans ma tête. 9, 8, 7. Parce que là, du coup, on est obligé de réfléchir.
Et ça ne fait pas trop monter la pression, ça? Parce et que ben ça non, fait, non, on pourrait non, croire qu'à zéro, j'explose.
Non, moi, ça ne me fait pas ça. Après, on a chacun nos outils, nos besoins.
Qui nous vont bien.
Déjà, simplement, le fait de prendre conscience... que là, on est en train de partir en vrille et de rentrer
dans
l'émotionnel, dans le stress. Dès qu'on déjà, avoir cette conscience-là, ça nous permet de baisser d'un cran.
Les outils que tu présentes, aussi bien se laver les mains à l'eau tiède, que compter à rebours, que respirer, etc., ils sous-entendent que l'émotion, en fait...
Alors là, c'est plus du stress. Hein. C'est pas tout à fait pareil, stress-émotion. Là, on est vraiment sur le stress.
Mais... En tout cas, alors du coup, que les manifestations du stress se calment en quelques minutes, ou etc. Puisque si tu comptes, par exemple, 10, 9, 8, 7, l'idée, ça serait qu'après, tu sois plus calme.
Oui, ça peut se calmer. Alors, c'est vrai que il n'y a pas une règle... magique. Imagine que tu te lèves le matin, ta voiture démarre pas. Hop, un coup de stress, tu arrives à l'école, vous êtes en retard, c'est la galère, ton conjoint devait faire un truc qu'il a oublié, du coup tu te retrouves à le faire, ton patron t'engueule, etc. Et donc le soir, t'arrives à la maison avec une dose de stress énorme. Le moindre petit truc risque de faire exploser.
Oui.
Donc ça va dépendre aussi de notre vie et de comment est-ce qu'on gère tous nos au quotidien, tout ça. Est-ce que j'ai dans ma vie une vie très stressante? Est-ce que je prends du temps pour remplir mon réservoir, pour aller faire de la marche, pour aller au cinéma avec une copine, pour faire...
prendre un bon bain.
Prendre un bain. Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je fais du yoga ou autre chose, ou de la Zumba? Enfin, est-ce que je fais quelque chose qui me nourrit, moi?
Qui
me fait plaisir et qui va m'aider à pouvoir me reconnecter à ces moments-là. C'est vraiment tout un truc. Où est-ce que je me laisse complètement emmener dans du stress tout le temps?
Alors, quelles sont les manières, Laurence, de sortir du stress?
Il y a deux grandes voies, en fait. C'est important de voir que soit on va apprendre à se calmer, soit on va sortir le stress. Et ça ne va pas forcément être la même chose au même moment. À nous de voir si on était plus dans une situation où on avait envie d'attaquer ou si on était plus dans le figement. On va voir et sentir et puis pouvoir enseigner tout ça à nos enfants. Un enfant qui sort de l'école, qui est bourré de stress, parce qu'il y en a beaucoup de stress à l'école, même si on a une maîtresse très, très, très bienveillante, peut y avoir eu un enfant dans la cour qui nous a piqué sur le vélo qu'on voulait. Il peut y avoir eu beaucoup de bruit. 25 enfants dans une classe, quand c'est pas plus, ça fait du bruit, même si on a la maîtresse la plus gentille du monde. Il peut y avoir eu que sa meilleure copine qui est là d'habitude tous les jours, là, elle n'était pas là. Il peut y avoir eu que c'était pas la Tsem qui est là d'habitude. Il peut y avoir plein de petites choses qui font qu'on récupère nos enfants en petites boules de nerfs le soir. Et comme les enfants montrent leur stress aux personnes avec qui ils se sentent plus en sécurité, souvent c'est avec maman. Donc maman vient chercher, on récupère un enfant, nous dit à la sortie de l'école, il était tellement mignon, s'ils pouvaient tous être comme lui, ça serait génial. Et deux minutes après, on se retrouve avec un espèce de petit tigre qui va nous attaquer. Et donc là, s'il est rempli de stress, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il va avoir besoin soit de se calmer, soit de sortir le stress. Donc d'aller courir, d'aller grimper aux arbres, d'aller sauter sur un trampoline, de faire quelque chose dans le mouvement. Le mouvement est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour les enfants. Si on les laisse courir librement, je crois que j'ai lu des chiffres comme ils courent entre 4 et 6 km par jour, quelque chose comme ça, c'est rigolo. C'est hallucinant de les voir faire. D'ailleurs, si nous on essaye de suivre leur rythme, en général on est épuisé au bout de 5 minutes.
Mais où trouve-t-il donc cette énergie?
Et oui. Et donc c'est important de ça, et puis c'est aussi important de leur donner des outils pour gérer eux-mêmes leur stress. Leur montrer que quand ils sont énervés, ils peuvent boire un verre d'eau. Alors pour enseigner aux enfants, on le fait nous-mêmes, on le fait dans des jeux. Et puis on le fait après, on leur rappelle après, par exemple, ils sont... il est en train de jouer, il commence à s'énerver sur un truc, et on lui dit « Oh, on va boire un verre d'eau !» Ou « On respire !» Ou « On va aller sauter !» Ou voilà, et on leur donne les pistes.
Alors, boire un verre d'eau, c'est parce que, donc, comme on l'a vu, il y a ces deux différents cerveaux hein, qui régissent soit la réflexion et du coup la raison, le calme, etc. pour le néocortex, et puis de l'autre côté, l'amygdale qui va être un peu plus dynamique au niveau des impulsions. Et donc, l'amygdale cerveau du stress qui déclenche de l'adrénaline et du cortisol, donc des hormones de stress qui vont nous mettre un gros coup de punch là pour réagir dans la minute, ouais. Effectivement, si le tigre aux dents de sabre est là. Et puis le néocortex, lui, qui va déclencher plutôt de l'ocytocine.
Alors,
c'est ça
je ne suis pas sûre qu'il vienne du néocortex, là, je ne suis pas une spécialiste, mais en tout cas.
L'ocytocine, c'est l'hormone de la détente, du plaisir, de l'harmonie, etc. Et c'est cette hormone-là qu'on cherche à sécréter dans les moments où on est stressé pour pouvoir contrebalancer le.
C'est pour ça qu'un enfant qui fait une crise, il a beaucoup plus besoin d'un câlin que d'une fessée.
Puisque le câlin, ça déclenche l'ocytocine.
Voilà, tandis que si on lui donne une fessée, on va rajouter encore plus d'adrénaline. Et donc, on nourrit le problème.
D'accord.
Tandis que si on lui dit, waouh, là, t'étais vraiment fâché, viens là. Et puis après, on peut réfléchir.
Oui, d'accord.
Après, on peut réfléchir.
Donc d'abord, on lui fait son plein d'ocytocine et ensuite, on parle.
Voilà, c'est exactement ça.
D'abord, on fait des bisous, des câlins, ensuite, on en discute.
Je vous raconte une petite anecdote, si vous voulez.
Oui.
Alors, une anecdote, c'est une petite fille qui sort de l'école et qui a été punie par sa maîtresse et qui sort pleine de honte, de colère. Et je vois ça dans ses yeux et elle me dit, c'est horrible, j'ai été punie. Alors, première réaction des mamans, en général, c'est pour être « Qu'est-ce que t'avais encore fait ? Mais c'est pas possible, tu sais bien que... » C'est en général ce qu'on va dire à nos enfants qui ont été punis. Autre solution, « Waouh, t'as dû avoir beaucoup de honte d'être puni comme ça devant toute la classe. » Et là, l'enfant va pouvoir se calmer, sentir sa honte, sentir ce qui s'est passé pour elle, se reconnecter à son cerveau et dire de lui-même « Ouais, je sais bien qu'il faut pas que je bavarde avec ma voisine tout le temps. » Elle va pouvoir réfléchir. Tandis que si je vais dans « c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut que... »
C'est terrible.
Elle juste, elle va m'attaquer et ça va pas aller.
Et oui. Là, c'est elle vraiment... s'est sentie rejointe,
et
vraiment.
Oui. Et du coup, quand on est rejoint, on peut aller trouver nos solutions. Ok, alors qu'est-ce que tu vas faire demain? Comment tu peux régler ça avec la maîtresse? Comment tu peux organiser ça? Ben, peut-être je vais lui demander de changer de place. Et voilà. Et là, on peut avancer et trouver des solutions. Et après, on peut revenir sur le fait, ben ouais, c'est compliqué à l'école, hein, parce que si 25 élèves se mettent à parler en même temps, c'est difficile, et donc la maîtresse, elle a mis cette règle-là, et là, on peut en reparler. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une clé, le premier outil, ça va être le retour au calme, et qui permet aussi de nourrir l'attachement. C'est vraiment un outil tellement important.
Donc là, on a vu l'outil donc, du câlin, de la de l'affection, de la tendresse, etc. Ouais. On a vu la respiration qui permet de se détendre. On a vu l'utilisation de l'eau qui aussi est un contact qui déclenche la production d'ocytocine aussi.
N'importe quel contact, hein, comme le câlin, ça pourrait être aussi d'accord. de te prendre tout simplement toi-même dans les bras ou de faire un câlin avec un chat ou un chien ou avec son enfant, encore mieux.
Et je pensais tout à l'heure que donner de l'empathie à nos enfants, c'est bien, mais que c'est aussi peut-être fondamental à des moments de s'en donner à soi-même.
Oui.
Quand tu parlais de l'exemple de la maman qui a eu une journée extrêmement stressante, qui retrouve son enfant le soir, alors l'enfant est stressé, la maman est stressée, oulala. Et donner de l'empathie à l'enfant quand toi-même on est stressé, c'est peut-être un peu compliqué. Peut-être qu'il vaut mieux utiliser un peu l'image de l'avion dans lequel on se met le masque à oxygène avant de le mettre sur notre enfant.
C'est exactement ça.
D'abord se donner à nous-mêmes l'empathie, se dire oulala, c'est vrai que là, j'ai eu vraiment une journée dure.
Mais les enfants, ils peuvent nous en donner aussi. Je me souviens d'une fois où je dis à ma fille, oh là là, je me sens tellement énervée. Là, j'ai vraiment besoin d'être 10 minutes toute seule dans la cuisine. Là, parce que je crois que je supporte rien. Je suis prête à exploser. Et je l'entends dire à son frère dans le couloir, laisse maman tranquille, là, elle a vraiment besoin de calme. Elle ne se sent pas très bien. Et simplement d'avoir entendu ma fille dire ça, j'ai juste ressenti tellement d'amour à l'intérieur que ça m'a permis de vivre ça et de pouvoir, le stress était passé. Donc nos enfants aussi peuvent nous donner de l'empathie. Quand on donne un câlin à notre enfant pour l'aider à se calmer, nous, ça nous aide aussi.
Et ils nous montrent qu'ils sont vraiment prêts à coopérer et
exactement.
À nous aider à répondre à nos besoins, tout comme nous, on peut les aider à répondre aux leurs.
Tout à fait. Et le deuxième outil qui est vraiment important, c'est les deux carburants. Isabelle Filioza, elle prend toujours cet exemple de carburant qu'on mettrait, si on voulait aller à Paris avec une voiture, on lui dirait pas « je te donnerai de l'essence une fois qu'on serait arrivé ». On lui donnerait de l'essence pour partir. Et donc, il y a deux carburants, il y a l'attachement et puis il y a le pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, c'est je sens ma force, c'est je peux choisir mes deux parfums de glace dont on parlait tout à l'heure, c'est j'existe dans ce monde. Et ça, l'enfant, on va vraiment pouvoir lui donner à toucher ça en jouant avec lui et en le laissant gagner. Par exemple, en faisant des bagarres, dans des trucs où il va sentir sa force, en réparant avec lui sa bicyclette, en l'encourageant à grimper aux arbres, en faisant des choses dans le physique, dans je ressens.
Je te propose qu'on s'écoute Pascal Parisot avec la chanson Wonderful qui nous montre à quel point on a tous envie d'être extraordinaire, des enfants aux adultes. Allez, super.
Extraordinaire, je ne veux pas être un simple mammifère. D'ailleurs, j'aurais trop de mal à m'y faire. Je voudrais être extraordinaire, je voudrais être extraordinaire.
wanna be wonderful. Vous aussi, vous voulez être extraordinaire. Et nous aussi, on veut être extraordinaire. Et les enfants aussi veulent être extraordinaires pour créer un monde extraordinaire dans les enfants du Nouveau Monde sur Radio 16. Nous sommes avec Laurence Nugue, qui est coach parentale et avec qui nous parlons d'outils pour déjouer la violence éducative ordinaire, hein, qui se cache dans des toutes petites choses, dans des tout petits mots, dans des regards, dans un geste, ou justement parfois dans l'absence de gestes. On va vers une éducation bienveillante, une parentalité positive. Il s'agit vraiment de laisser le moins possible de violence dans la relation entre les adultes et les enfants. On a parlé de l'importance des câlins. On a parlé de l'importance du lien, de l'attachement. Qu'est-ce qu'on fait, Laurence, quand on n'aime pas trop faire des câlins avec son enfant, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ne sont pas tactiles et qui, ouais, voilà, qui n'ont et pas oui. trop envie.
Des fois, c'est difficile parce que des fois, quand on n'a pas forcément reçu et quand on n'a pas eu l'habitude, ben, parfois, ça vient réveiller des choses qui sont douloureuses dans le cœur. C'est comme les parents qui n'arrivent pas à jouer. Et dans ces cas-là, au moment de faire un câlin, quand notre enfant va nous demander un câlin ou va nous demander de jouer, automatiquement, on va avoir une notification Facebook sur notre téléphone qui va vite falloir aller répondre, ou vite on a une machine à laver ou alors à vider ou un truc à faire, et on va mettre de côté le câlin ou le jeu. Et ça, c'est vraiment compliqué et c'est difficile pour les enfants. Donc, c'est déjà d'en prendre conscience, de le ressentir, de savoir que c'est là, et de se dire, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à le donner, ce câlin? Pourquoi c'est si compliqué? Quelle est mon histoire par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe? Et puis peut-être d'aller sentir la douleur à l'intérieur, ce qui se passe. Peut-être qu'on a besoin d'aide à ce moment-là, peut-être de voir quelqu'un qui peut nous aider à faire ce chemin-là pour retrouver le lien. Mais c'est vrai que ça arrive et que c'est souvent douloureux pour les parents de vivre ça.
En fait, devenir parent, ça nous met vraiment dans une position très vulnérable, parce que à travers nos enfants, on retrouve aussi notre petit enfant à l'intérieur.
Tout à fait.
Et effectivement, quand on n'arrive pas à être dans le lien, quand on n'arrive pas à être dans cette tendresse, dans cet amour, etc., c'est qu'il y a eu blocage sur cet enfant intérieur. Et il y a des choses à réparer.
Et oui, et puis dans ces cas-là, c'est souvent à ce moment-là que l'enfant va être, entre guillemets, infernal, va avoir un comportement qu'on ne va pas comprendre, et on va dire, il me cherche, il fait tout pour m'énerver, il m'a encore fait un caprice, il m'a encore fait une colère. Alors qu'en fait, l'enfant, il est effectivement en train de rechercher, mais du contact, de l'amour, quelque chose, il est en train de rechercher du lien. Et c'est vraiment important de pouvoir regarder ça avec beaucoup d'amour et d'affection pour soi, parce que c'est en guérissant cette blessure qu'on va pouvoir remplir le réservoir de l'enfant et le nôtre, et puis du coup aller dans une relation qui sera apaisée.
Il s'agit donc de guérison intérieure, et il s'agit aussi d'apprendre donc des outils qui vont nous aider à établir une nouvelle relation avec nos enfants, notamment des outils de communication. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la communication non violente. Hein. C'est une...
Oui, alors ça, c'est on parle vraiment beaucoup de je parle en jeu au lieu de parler en tu. Alors ça, c'est le béaba. Hein. Je dirais que le truc tout bête, le soir, on rentre à la maison, on est fatigué, et au lieu de dire je suis fatigué, on dit ah, tu me fatigues. c'est le classique. Alors que si je dis je suis fatigué, l'enfant va peut-être avoir beaucoup plus envie de dire bah tiens, on s'assoit, on fait un câlin. Alors que si on lui dit tu me fatigues, effectivement, il est fatiguant, il va continuer.
C'est une... oui. Alors que je suis fatigué, ça peut même avoir donné envie à l'enfant de contribuer et de dire ah,
tout à fait.
Tu veux t'asseoir un peu.
Ouais, exactement. Ouais. Mm-hmm. Donc c'est vrai. Et puis ça apprend aussi à l'enfant. C'est-à-dire, plus on va prendre nous en charge nos émotions, nos besoins, parce qu'à chaque fois qu'on va faire un jugement, c'est un jugement de dire à l'autre qu'il est fatigant. À chaque fois, ça veut dire qu'on a une émotion ou un besoin qui est là, latent. Donc, on va apprendre, enseigner aussi par la modélisation à l'enfant à le faire aussi.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outils de communication, Laurence, qui sont très utiles?
Alors moi, il y en a un qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et les neurosciences m'ont aidée à le comprendre, parce qu'il est dans tous les ateliers de parentalité. C'est celui qui permet de développer le cerveau frontal en utilisant ce cerveau frontal. Alors, un exemple tout simple qui m'aide encore chaque matin, au lieu de dire aux enfants « Dépêchez-vous, 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 mais qu'est-ce que t'as pas encore fait ça ?» etc. J'imagine que beaucoup de parents se connaissent, de leur dire, de dire aux enfants, le bus part dans 10 minutes ou on y va dans 15 minutes, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Et là, l'enfant, au lieu de dire « tu m'énerves » à toujours crier, va pouvoir se dire « il me reste à brosser mes dents, brosser mes cheveux et mettre mon cahier de maths dans mon cartable ». Parce qu'il est, on ne s'adresse pas à la même partie de son cerveau.
On va pas s'adresser justement à la réflexion.
On invite à la réflexion. Donc on fait deux choses à la fois là. À la fois on l'agresse pas et à la fois on l'aide à développer ce cerveau frontal qu'il a tant besoin de développer.
Très utile. Et donc poser des questions.
Oui,
ça c'est un outil.
Poser des questions qui aident à réfléchir.
Au lieu de donner des ordres.
Alors je fais toujours attention avec ce mot poser des questions parce que si c'est des questions, mais pourquoi t'es pas encore prête, mais pourquoi t'as pas encore fait ça, là.
Ça marche pas,
mais au contraire, ça envenime.
On sent de l'accusation derrière.
Voilà, hein, donc c'est pas des questions d'accusation, c'est des questions qui aident à réfléchir. Donc le choix va être aussi très aidant. Ou alors par exemple avec l'enfant, il pleut, on sait bien que si on dit à un petit enfant de 2 ans, mets tes bottes.
Il va pas vouloir les mettre
parce qu'il est dans sa période où il dit non à tout, non pas pour s'opposer comme on l'a trop souvent entendu, il dit non pour se différencier de nous et pour pouvoir ressentir son pouvoir personnel, sa force, son existence. Et donc là, on va lui dire, oh, il pleut, qu'est-ce qu'on met sur les pieds ? Ça va être bien plus utile parce que là, en général, les enfants, ils aiment respecter les règles. Par contre, si on leur donne des ordres, personne n'aime les ordres. Si on est honnête avec soi-même, aucun être humain n'aime recevoir un ordre. Et automatiquement, dès qu'on prend un ordre, hop, on a notre cerveau qui se déclenche.
Et hop, on se remet en cerveau reptilien, on est prêt à attaquer.
Et voilà.
Ou à fuir.
Exactement. Donc, c'est pareil avec nos enfants, ils n'aiment pas ça. Donc, il vaut mieux les faire réfléchir. Il pleut, qu'est-ce qu'on met sur les pieds ? Ou tu préfères, s'il y a 2 paires de bottes, tu préfères les bottes rouges ou les bottes vertes ?
Et là, justement, il se sent dans son pouvoir personnel de décider, de choisir,
c'est
de répondre à la question.
Ça.
C'est tout bénef.
Donc ça, c'est vraiment des outils que j'aime beaucoup. Et puis, on va aussi leur parler en positif aux enfants. Parce que très souvent, on va parler en négatif. Alors, je reprends l'exemple d'Isabelle Filioza qui est connue, mais qui est tellement parlant. Si je dis « ne pense pas à une girafe », à quoi as-tu pensé ?
À une girafe.
Eh oui, parce que... Donc très souvent, déjà le cerveau ne traite pas la négation, et même s'il la traite, c'est complètement impossible de faire autrement. Si je ne voulais pas que tu penses à une girafe, il fallait que je te dise de penser à un zèbre, à un éléphant, à n'importe quoi, mais pas à une girafe. Et pour nos enfants, c'est pareil. Des fois, on va leur dire « n'ouvre pas la porte ». Et l'enfant, il va entendre « ouvrir porte ». Alors peut-être que dans sa tête, ça va dire il y avait un non, donc il va se dire non, non, non. Et là, il fait quelque chose d'encore pire. Il ouvre la porte en nous regardant droit dans les yeux. Et là, on se dit, il me cherche.
Je viens de lui dire de ne pas l'ouvrir, il l'ouvre en me regardant.
Voilà.
Et mais quel petit effronté.
Ça peut aller encore plus loin, parce que dans ces cas-là, si on l'a pris comme ça et qu'on lui dit arrête de me chercher, arrête de faire ça, et dans ces cas-là, des fois, il va même se mettre à rire.
Et alors, tu l'expliques comment ça ?
Alors, le rire, à quoi ça sert ?
À se détendre
et puis à créer du lien. Donc en même temps, je me détends et en même temps, je crée du lien parce que d'habitude, quand je rigole, maman, elle crie, elle rit avec moi. Donc du coup, je vais pouvoir, en riant, lui redonner « Maman, s'il te plaît, rigole avec moi. »
Allez, regarde, elle est bien ma blague.
Voilà. Et du coup, l'enfant, il est en train de chercher tout ça. C'est pas forcément qu'il est en train de nous chercher, de faire exprès pour nous enquiquiner. Trop souvent, on a cette idée-là. Quand on voit qu'un enfant est en train de faire le contraire que ce qu'on lui a dit et qu'on lui a dit en négatif, tout de suite, on reprend et on peut dire « Oups, tu as bien compris, là, c'est la porte reste fermée et on emmène l'enfant faire autre chose. » Et c'est vraiment important à chaque fois de parler en positif. Ça ne s'adresse pas aux mêmes endroits dans le cerveau. Ça donne complètement autre chose dans la relation. C'est plus important de dire à un enfant, par exemple à un ado, si on va lui dire « ne rentre pas après 10 heures », ça va rien du tout, ça sert à rien. C'est bien plus utile de lui dire « Ok, on a dit que tu rentrais à 10 heures, comment est-ce que tu vas faire pour te souvenir d'être là à 10 heures ?» Ou « Comment tu vas faire pour te souvenir qu'il faut que tu partes à 10 heures moins le quart ?» Lui poser une question qui va l'aider à réfléchir. On est toujours dans ce système-là.
Est-ce qu'il y a d'autres outils comme ça à nous dévoiler avant la fin de cette émission ? Parce qu'on arrive bientôt à la fin.
Il y en a un autre, moi, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé, qui est d'offrir par l'imaginaire. Par exemple, notre enfant aimerait tellement pouvoir se baigner tout de suite dans la rivière, que l'eau soit chaude, au lieu de lui dire « mais sois raisonnable, tu sais bien qu'on n'est qu'au mois d'avril, et au mois d'avril, il faut encore attendre un petit peu, c'est trop froid pour l'instant, arrête tes comédies, tu le sais ». On va pouvoir lui dire « oh ouais, ça serait tellement chouette, et t'imagines, on irait, on prendrait nos serviettes, on aurait tout ressorti, et puis on emmènerait le canoë, et on se ferait une grande balade, et on prendrait un pique-nique, et on rêve avec notre enfant ». C'est pareil quand il n'y a plus le yaourt préféré dans le frigidaire, au lieu de dire arrête ton caprice, il y en a au chocolat, c'est pas grave s'il n'y en a pas à la vanille, tu es vraiment un petit enfant gâté, regarde dans le monde entier, comme on sait faire hein, la morale comme ça. Lui dire oh, qu'est-ce que j'aimerais ça, attends, on va prendre une baguette magique et on fait abracadabra le frigidaire et non, il n'y en a pas. Pourtant, j'aimerais vraiment ça. Et là, il va avoir envie de dire bon, ok, je veux bien le chocolat. Et puis peut-être qu'il n'aura pas envie du chocolat, qu'il va dire « ouais, de toute façon, c'est comme ça, c'est jamais comme ça, j'ai jamais comme je veux ». Et ouais, c'est dur hein, des fois, hein, de ne pas avoir ce qu'on a envie. Et puis c'est tout, il n'y a pas besoin d'en faire un plat, un peu d'empathie, et puis ça passe. Nous aussi, des fois, on a nos moments où ça ne va pas, et un petit peu d'empathie, ça nous fait du bien.
Tout à fait. Et donc se rappeler vraiment que l'objectif n'est pas que l'enfant obéisse ou qu'il ait le comportement dont on rêve, etc. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une relation de confiance, une relation apaisée.
Et puis d'enseigner à nos enfants que ben, dans la vie, on peut résoudre nos conflits autrement que par des cris, des tapes, des punitions, des menaces, mais qu'on peut se parler, qu'on peut donner de l'empathie, qu'on peut avoir une autre relation entre êtres humains. Tout ce qu'ils apprennent, tout ce qu'on apprend dans l'enfance, on s'en sert après dans notre vie d'adulte.
Leur apprendre à surmonter la vie, à traverser la vie.
À traverser, oui, je préfère.
Merci en tout cas, Laurence. Est-ce qu'il y a quelques outils bibliographiques qu'on peut peut-être transmettre, bibliographiques ou autres, ou des films, ou je ne sais pas, des petits
Alors,
exemples.
Films, allez regarder Le cerveau dans la main sur Internet. Il y a une version adulte, une version enfant, c'est des petits films qui durent 5 minutes et qui expliquent le stress, et c'est vraiment utile.
Le cerveau dans la main.
Ouais.
D'accord.
Et puis après, dans les livres, moi, mon préféré, c'est Au cœur des émotions de l'enfant, d'Isabelle Filioza. Elle en a écrit d'autres. Elle a écrit Il me cherche et j'ai tout essayé. Et je guette avec impatience son livre sur les ados. Et puis, je guette comme livre, il y a aussi les livres de Faber et Maslisch, Parler pour que les enfants écoutent. Et puis, tous les autres. Donc, ça, c'est aussi des références que j'aime beaucoup. Et par rapport à tout ce qui est neurosciences, les livres de Catherine Guéguin, Pour une enfance heureuse, et j'ai oublié le nom de son deuxième livre. Mais
de toute façon, ce qu'elle fait, c'est super. Il y a des conférences d'elle sur Internet et tout ça. Ouais. Catherine Guéguin ou Guéguen, G-U-E-G-U-E-N, je crois.
Voilà, c'est passionnant.
Oui, c'est passionnant, effectivement.
Et puis, ne restez pas seule, quoi. Il y a plein de groupes de parents, parler, sortez, enfin, rencontrer, se rencontrer, chercher des solutions ensemble, ne pas être seule, parce que
c'est pas une honte d'avoir besoin de soutien quand on est parent.
Tout à fait. Et puis de se rendre compte que, ah tiens, aussi ton fils, il mange pas d'haricots verts. Ah, le tien aussi, il fait des caprices pour ça. Et le tien aussi, il fait ça. Ah, ben peut-être que c'est pas un caprice. Alors peut-être que du coup, c'est un comportement normal de son âge. Ah, ben tiens, comment on pourrait faire autrement? De chercher ensemble plutôt que de se sentir mauvaise maman, triste, toute seule dans son coin. C'est vraiment important.
Alors toi, justement, tu animes des ateliers pour les parents. Pour les gens qui souhaiteraient te contacter, donc les ateliers, c'est sur leur région
Moi, j'en anime beaucoup sur Bagnoles, mais je sais qu'il y en a aussi dans d'autres endroits. Enfin, je travaille aussi sur Uzès. Enfin, dans plein d'endroits, je vais dans... À chaque fois qu'on me demande, j'y vais. Et j'ai aussi des collègues qui sont pas loin de Bessèges. Donc, voilà, il y a plein d'ateliers. N'hésitez pas à me contacter.
Comment on te contacte?
Eh bien, soit sur mon site, en cherchant Laurence Nug sur Internet, soit par téléphone au 06 98 25 60 72.
Et Laurence Nug, N-U-G-U-E-S. Au revoir Laurence, merci beaucoup d'être venue nous transmettre tous ces outils.
My gang will get you.
Retrouvez les enfants du Nouveau Monde tous les lundis, une semaine sur deux, le matin ou le soir, soit 8h30, 9h30, soit 18h30, 19h30 sur Radio 16. Toutes les émissions sont également écoutables quand vous voulez sur radio16.net.